bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec vous, Marc-Aurel Barrez. À la une de cette édition, le président libanais Joseph Aoun appelle Israël à pleinement respecter la trêve. Il ajoute attendre que les États-Unis fixent une date pour une prochaine session de pourparlers. Toujours au Liban, 1,2 million de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire aiguë, c'est l'ONU qui l'affirme. Et dans le dossier du jour, nous écouterons le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui s'est exprimé mardi à l'Assemblée nationale. Il y défendait l'efficacité du dialogue avec l'Algérie. Vous entendrez aussi Amande Bazerolle, coordinatrice d'urgence chez Médecins Sans Frontières. Pour elle, la situation humanitaire à Gaza passe aujourd'hui sous les radars. Et enfin, forte tension dans les prisons, nous écouterons la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau. Elle dénonce une situation catastrophique dans les prisons. Nous le disions dans les titres, le président libanais Joseph Aoun appelle Israël à pleinement respecter la trêve. Ceci alors qu'un soldat libanais a été tué aujourd'hui dans une frappe israélienne au sud. Le président a ajouté attendre que les États-Unis fixent une date pour une prochaine session de pourparlers entre émissaires libanais et israéliens. Toujours au Liban, 1,2 million de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire aiguë. La raison, le conflit entre Israël et le Hezbollah. C'est une étude menée par l'ONU et le ministère libanais de l'Agriculture qui le dit. En Cisjordanie occupée maintenant, un Palestinien a été tué aujourd'hui lors d'un raid militaire israélien à Silwad, à l'est de Ramallah. En Iran, deux chiffres, 21 exécutions et 4000 arrestations depuis le début de la guerre. D'après l'ONU, les Iraniens qui, d'après Donald Trump, je cite, ont intérêt à devenir intelligents et vite. Fin de citation. C'est ce qu'il a affirmé ce mercredi sur son réseau Truth Social. Pour lui, les Iraniens ne savent pas comment conclure un accord. Et deux hommes de confession juive blessés, un suspect interpellé après une attaque au couteau dans le nord de Londres ce mercredi. D'après la police, l'attaque est considérée comme terroriste. Pour Sadiq Khan, le maire de Londres, la communauté juive de la capitale est la cible d'une série d'attaques antisémites choquantes. Fin de citation. Et le régime va tomber, ce sont les mots du porte-parole du Front de Libération de l'Azawad, un groupe armé opposé à la junte malienne au pouvoir à Bamako. Il ajoute que face à l'offensive combinée des Touaregs et des djihadistes, les chefs de la junte, je cite, ne pourront pas tenir. Et la France peut se faire respecter par l'Algérie avec une démarche de fermeté sans pour autant rompre avec le pays. C'est ce qu'a affirmé Maud Bréjon après la polémique suscitée par Emmanuel Macron. Le président avait critiqué, je cite, les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Il s'était attiré les foudres de Bruno Retailleau. Vous l'entendrez dans le dossier du jour à suivre. Et enfin, le débat sur la taxation des super profits pétroliers reprend. Le Premier ministre Sébastien Lecornu appelle aujourd'hui Total Energy à, je cite, redistribuer d'une manière ou d'une autre ses bénéfices. Des déclarations qui interviennent alors que le géant pétro-gazier a connu une envolée de ses bénéfices sur fond de guerre au Moyen-Orient. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, s'exprimait mardi à l'Assemblée nationale. Il a annoncé une reprise de la coopération sécuritaire et migratoire entre Paris et Alger. Pour lui, cette coopération est efficace et se fait dans l'intérêt des Français. On l'écoute.
Le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, n'a qu'une seule boussole, c'est de défendre l'intérêt de la France et des Français. Et l'intérêt des Français en Algérie, qu'il soit sécuritaire, qu'il soit migratoire ou qu'il soit économique. Et cela passe nécessairement par un dialogue très exigeant pour obtenir des résultats. Et cela fonctionne. Après le déplacement du ministre de l'Intérieur, après un an de blocage complet, la coopération entre la France et l'Algérie sur le plan migratoire et sécuritaire a repris. Il y a de premiers résultats, ils doivent se consolider. Alors bien sûr, ça n'est pas encore une situation satisfaisante. Bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Bien sûr, nous restons mobilisés pour obtenir la libération définitive de notre compatriote Christophe Glaize. Mais faire croire aux Françaises et aux Français qu'en rompant définitivement le dialogue avec les pays qui nous entourent et que par l'invective on peut obtenir des résultats, c'est soit de l'aveuglement, soit de la démagogie.
Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Bruno Retailleau sur TF1 a réagi à l'annonce de la reprise de la coopération sécuritaire entre l'Algérie et la France. Pour lui, les propos du ministre sont faux. On l'écoute.
C'est faux, puisque les OQTF qui ont été repris par l'Algérie, c'est à 80-90 depuis le début de l'année, à peu près, 90 cas. Mais surtout, c'est en violation de l'accord que nous avons entre l'Algérie et puis la France de 94. Un accord qu'Emmanuel Macron citait d'ailleurs dans la lettre que je vous ai indiquée qu'il avait envoyée à François Bayrou. Et selon cet accord, quand on documente, quand par exemple un Algérien qui a fait des troubles publics sur le sol français, on lui documente par exemple un document d'identité ou un passeport, l'Algérie doit le reprendre. Et en violation de cet accord, les Algériens reprennent au compte-gouttes, mais par la voie des laissez-passer, qui est la voie exceptionnelle. Donc ils violent leur accord, alors que nous, on a l'accord de 68 qu'on respecte à la lettre. Eh bien, quand je serai élu président de la République, un des premiers des actes que je ferai, c'est que je dénoncerai cet accord de 68.
C'était Bruno Retailleau sur TF1. À Gaza, la situation humanitaire reste très difficile alors que l'actualité se penche sur la guerre, le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Les difficultés dans l'enclave sont occultées. C'est ce que pense Amande Bazerol, coordinatrice d'urgence à Médecins Sans Frontières. On l'écoute.
C'est complètement oublié alors que les conditions ne se sont pas améliorées pour les populations. La seule chose qui est changée depuis ce soi-disant cessez-le-feu, c'est qu'il n'y a plus de bombes qui leur tombent dessus. Des tirs quand même assez fréquents, y compris parfois sur les distributions d'eau, sans aucune explication de pourquoi ça a été ciblé. Les gens ont oublié qu'il y a des gens qui souffrent à Gaza, pensent que la guerre est finie. Elle n'est absolument pas finie. La situation n'est pas revenue à la normale pour la population gazaoui. À nouveau, c'est 90% des gens qui ont été déplacés un certain nombre de fois et la très grande majorité qui vivent dans des abris de fortune. Et vraiment, quand je dis de fortune, c'est vraiment aux aléas climatiques tous les jours sur le bord de mer pendant l'hiver. C'est terrible. Il fait extrêmement froid. On a des enfants qui sont morts de froid, des bébés tous les ans. Donc, c'est vraiment des conditions extrêmement dures pour cette population et rien. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de matériel qui rentre. Je rappelle qu'il y a plus de 30 ONG qui se sont vues interdire de renouveler leur enregistrement et qui ne peuvent plus opérer à Gaza aujourd'hui.
C'était Amande Bazerol, coordinatrice d'urgence chez Médecins Sans Frontières. Tout le monde se demande comment cela n'a pas implosé avant. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, dénonce une situation catastrophique dans les prisons. Cette semaine a été marquée par des actions de blocage partout en France pour dénoncer la surpopulation carcérale. Dominique Simoneau.
Quand vous êtes trois par cellule avec tout ce que je vous ai décrit comme bestioles qui vous courent partout, que vous avez... Vous sortez une heure par jour pour la promenade, une heure par jour. Que les carreaux sont cassés, que vous transpirez de chaleur l'été, que vous claquez des dents de froid l'hiver, que la douche est cassée, que vous êtes obligé de satisfaire vos besoins naturels devant tout le monde, parce qu'il n'y a pas de muret qui sépare les toilettes du reste de la cellule, mais que vos affaires sont rangées par terre, là où courent les cafards, que la nuit vous mettez... du papier toilette dans les oreilles pour éviter que les bestioles n'y entrent. Je pense pas qu'on cumule là de quoi faire reprendre pied à quelqu'un dans la société de façon sereine comme le demande la loi.
Et quand on vous entend, quand on vous écoute, on comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'un lieu de privation de liberté. Comment vous qualifiez aujourd'hui
une... Moi, je pense que c'est un lieu où sont administrés des châtiments corporels. Et je ne pense pas que ce soit dans la loi. Je pense que c'est assez moyenâgeux, parce que ça s'apparente à ça. Je rappelle également que la promiscuité entraîne forcément de la violence des détenus sur les surveillants, mais aussi des surveillants sur les détenus, et que la violence est telle qu'il y a des gens, des détenus, qui ne veulent pas aller en promenade, parce qu'ils ont peur. La promenade, c'est très mal surveillé. Personne n'intervient.
Les détenus ont peur des autres détenus ?
Moi aussi, j'aurais peur. Il y a 6 détenus en un an, là, qui sont morts dans leur cellule, tués par leurs co-détenus. Puis on n'avait jamais vu un chiffre pareil.
La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, au micro de François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Anis pour la technique. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.